Bon dimanche, vous allez bien ?
Oui.
Gloire à Dieu, nous avons prié, nous avons chanté, nous avons loué notre Dieu. Et là, nous allons commencer à étudier la parole de Dieu. Que Dieu bénisse vraiment tout ce qui va être dit ce matin. C'est des choses qui auraient dû être prêchées depuis longtemps, mais dans notre vie communautaire, je ne voyais pas l'intérêt de dire ces choses. Elles semblaient normales, coulant de source. Et puis, je vois que, ben non, c'était pas vraiment le cas. Donc, je vais prendre des enseignements qui, normalement, sont un peu basiques, mais qui sont nécessaires afin que nous, qui sommes fidèles, eh bien, nous soyons établis, voilà, sur ces vérités profondes, réelles, qui régissent le royaume de Dieu, qui est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va se lever, on lit Genèse chapitre 14, verset 18. À 20. On peut déjà lire verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi des personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fils ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'on a mangé, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin, je vais vous parler de la prêtrise de Melchisédek. Je vous ai parlé déjà un peu de la prêtrise d'Aaron. Et ce matin, je voudrais approfondir au sujet de la prêtrise de Melchisédek parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les milieux chrétiens. Et c'est à cause de cela que beaucoup de gens se prennent la liberté de faire n'importe quoi. On voit, particulièrement en Afrique, des choses absolument épouvantables. N'importe qui se bombarde, pasteurs, prophètes, des nations. Avec Nicolas, on en rit, mais c'est plutôt qu'il faut en pleurer parce que c'est grave. Nicolas et moi, on dit, si lui, il est prophète des nations, moi, je suis prophète intergalactique. Il y a tellement n'importe quoi, mais tellement n'importe quoi. Et puis, ça vient en France, parce que la France est une éponge à tout, pour ramasser tout ce qui n'est pas bien. Alors, on ne sait pas grand-chose de Melchisédek. L'Ancien Testament ne le cite que deux fois, saviez-vous cela? Le texte que nous venons de lire nous apprend que Melchisédek était roi de Salem, ça veut dire roi de paix. On trouve une seconde fois le nom de Melchisédek dans un psaume, c'est un psaume prophétique de David, c'est le psaume 110, et là on voit le Père qui parle à Jésus en lui disant de s'asseoir à sa droite, parce qu'il n'y a personne d'autre que Jésus qui est assis à la droite du Père. C'est pourquoi on sait... Évidemment, David, je ne sais pas s'il avait vraiment bien compris ça, mais en tout cas, il l'a prophétisé. Et Dieu dit là, donc à Jésus, je le jure, donc il fait un serment. Je ne me repentirai pas, c'est-à-dire je ne changerai pas d'idée. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est au verset 4 du psaume 110. Vendredi, je vous ai dit que Jésus ne pouvait pas être prêtre. Il n'était pas de la tribu de Lévi, mais il était de la tribu de Juda. Comment Jésus pouvait-il devenir prêtre? Alors, quand on lit attentivement la lettre aux Hébreux, que personnellement j'attribue à l'apôtre Paul, mais ça me regarde, vous faites comme vous voulez. Quand on lit attentivement la lettre aux Hébreux, on voit qu'au chapitre 1, Jésus est comparé aux anges, mais qu'il leur est supérieur. Au chapitre 3, Jésus est comparé à Moïse, mais encore là, il lui est supérieur. Au chapitre 4, il est comparé à Josué. Au chapitre 5, il est comparé à Aaron. Mais à chaque fois, Jésus est montré comme étant supérieur. Supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur à Josué, supérieur à Aaron. Et puis, toujours dans la même épître aux Hébreux, Paul nous montre qu'il y a deux services dirigeants en Israël. Deux services dirigeants. Il y a la fonction du roi et puis il y a la fonction du grand prêtre. Alors, il est clairement dit que le roi était toujours de la tribu de Juda, descendant de David, et que le grand prêtre était toujours de la tribu de Lévi. C'est clair. Jésus, lui, il descendait de la tribu de Juda. Jésus avait pour ancêtre le roi David. Cette lignée le positionnait pour être roi. Ça, c'est dans les généalogies qu'on trouve dans les Écritures. Mais comment pouvait-il devenir grand prêtre? Ah! Alors, l'auteur aux Hébreux, Paul, connaissait les Écritures. Pourquoi il connaissait les Écritures? Parce qu'il avait été à l'école biblique, parce qu'il avait lu les Écritures, parce qu'il était assis au pied de Gamaliel, qui était son maître, enseignant, et qu'il avait donc appris. Il n'était pas comme le plombier qui nous a posé notre carrelage dans la salle de bain. Ce plombier-là n'a jamais appris à poser le carrelage. Il a posé le carrelage, mais c'est tout de travers. Eh bien, vous avez aussi des pasteurs qui font tout de travers parce qu'ils n'ont pas appris leur métier. Ça s'apprend. Surtout cela, c'est la chose la plus importante du monde. Et Paul, connaissant les Écritures, cite le psaume 110:4 en disant « L'Éternel l'a juré et il ne se repentira pas, il ne se rétractera pas. Il a dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Et voilà, Jésus peut être grand prêtre. Mais d'une autre prêtrise, vous comprenez? C'est une autre prêtrise. Prêtre selon la lignée de Melchisédek. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Des prêtres, selon l'ordre d'Aaron, il y en a pléthore, il y en a partout. Il y en a partout. Et par contre, il n'y avait personne qui détenait la prêtrise à la manière de Melchisédek. Personne. Paul savait que Melchisédek était prêtre du Très-Haut. Il l'a lu dans Genèse 14. Paul vit, en lisant l'histoire, que la prêtrise de Melchisédek était supérieure à celle de Lévi. Pourquoi il l'a vu? Quand on lit pas seulement pour lire, mais on lit aussi pour comprendre. Hein? Alors, lisons Hébreux 7, 1 à 16. Hébreux 7, 1 à 16. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, qui est sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est Mélodie. Donc, vous voyez la grande phrase de l'apôtre Paul, là. Hein? C'est pour ça que ça me fait dire que c'est l'apôtre Paul qui écrit la lettre aux Hébreux, parce que c'est des phrases avec plein de virgules. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est ça que ça veut dire. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Je vous rappelle que Lévi ne vivait pas encore, il n'était pas encore né. Il était dans les entrailles d'Abraham, il n'était pas encore né. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses, c'est-à-dire Melchisédek, qui ne tire pas son origine donc de Lévi. Il prend la dîme et il bénit celui qui avait la promesse, c'est-à-dire Abraham, en qui Lévi vivait déjà, en tant que spermatozoïde ou je ne sais pas quoi. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, c'est-à-dire Melchisédek est supérieur à Abraham, donc supérieur à celui qui est en Abraham, c'est-à-dire supérieur à Lévi, qui allait être la famille, la lignée de tous les prêtres d'Israël. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, donc c'est-à-dire ceux de Aaron, la lignée d'Aaron, la lignée de Lévi, ils sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. C'est-à-dire que il dure toujours, il est toujours, il existe toujours. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. C'est-à-dire, et là, l'apôtre Paul, vous voyez, l'esprit moyen-oriental, c'est très plein de contours et de méandres. Il dit que c'est Lévi qui a payé la dîme à Melchisédek parce que Lévi, il était en Abraham. Donc, de plus, Lévi qui perçoit la dîme, lui, qui perçoit la dîme du peuple, il l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce ou par la prêtrise lévitique, c'est-à-dire la prêtrise d'Aaron, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement, aussi il y a changement de loi. Abraham donne sa dîme à Melchisédek. Lévi était en Abraham, et donc Lévi donna à son supérieur, c'est-à-dire à Melchisédek. Là, c'est clair. La prêtrise de Melchisédek est supérieure à la prêtrise d'Aaron. Voilà pourquoi ce n'était pas très grave que Jésus ne soit pas de la descendance de Lévi. C'était très important qu'il soit de la descendance de Judas, c'est-à-dire roi. Hébreux 6, 20 nous dit « Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et c'est Pierre qui a la révélation, on va lire. Vous voyez, Paul il parle d'une chose, Pierre il complète. C'est pourquoi la révélation elle est progressive et elle dure encore. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, donc vous les disciples, Luc 14, 33, les disciples qui marchent vraiment selon les Écritures, qui décident de marcher selon les Écritures, ce n'est pas toujours facile, mais vous avez renoncé à votre vie, vous avez renoncé à votre orgueil, vous avez renoncé à toute chose afin de pouvoir vivre selon la loi de Christ. Eh bien, il dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas comme eux, vous êtes de la une race élue, un sacerdoce royal, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes de la lignée royale de prêtres. Nous ne sommes pas que prêtres, nous sommes des prêtres royaux. Qu'est-ce que ça démontre ? Ça démontre que la prêtrise, selon Melchisédek, est d'ordre céleste et non pas terrestre. Si on lit Hébreux 8:1 maintenant. Hébreux 8:1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jésus a sa fonction de grand prêtre dans le vrai tabernacle céleste, continue. C'est-à-dire dans la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il y avait un tabernacle à Jérusalem, mais c'était une copie de ce qui était dans le ciel. Alors, ceux d'Aaron officiaient dans le tabernacle terrestre, c'était très bien, c'était institué par Dieu, mais Jésus, lui, il officiait plus haut, il officie toujours plus haut, il a toujours officié plus haut, dans le tabernacle éternel. Et non pas dans le tabernacle fait de main d'homme. Les prêtres lévites, selon Aaron donc, puisqu'Aaron c'est le premier, ils servaient dans une copie du vrai tabernacle. Ça, on voit ça dans le verset 5. Hein, verset déjà 4, s'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Claire. La prêtrise, le prêtre lévite, selon Aaron, il servait donc dans une copie. Aaron a été le premier prêtre et ses fils lui ont succédé. C'était une prêtrise transmissible humainement, dans un tabernacle humain, c'est-à-dire dans une maison de Dieu faite par les mains d'hommes. Aaron, il a été très bien, bon, il a fait des boulettes, hein. Qui c'est qui en fait pas? Michel Janton. Non, Michel Janton fait aussi des boulettes. Tout le monde fait des boulettes. Et si vous vous servez de mes boulettes pour rejeter l'œuvre de Dieu, ben vous êtes des bien pauvres gens. Aaron, il a été bien, mais ça n'a pas été le cas de tous les prêtres qui sont descendus de lui. Hein, il n'y a qu'à lire, vous lisez les Écritures, vous allez voir, ça a très mal tourné très rapidement. Et le pire, c'était Caïphe, qui était grand prêtre au temps de Jésus. Mais enfin bon, Jésus l'a pardonné parce qu'il a dit, il ne sait pas ce qu'il fait, on lui pardonne. C'est beau, c'est noble, c'est noble. C'est ce que je finirai par faire avec ceux qui nous ont trahis ici. Mais pour le moment, je leur retiens leur péché. En tant que serviteur de Dieu, j'ai le droit, afin qu'ils goûtent un petit peu ce qu'ils ont fait, qu'ils voient que c'est grave. Mais je finirai par pardonner. Pour ce qui est des rois, c'est juste une décision. Hein. C'est juste une proclamation, c'est une décision, le pardon. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. Il faut être clair, hein. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. C'est quelque chose dans l'office du serviteur de Dieu. C'est pas tout le monde, c'est ceux qui officient en tant que ministres de Dieu, ils peuvent retenir ou pardonner les péchés. Ceux qui sont retenus au ciel, ceux qui sont pardonnés au ciel. C'est le serviteur de Dieu, c'est comme ça. C'est pas dans la prêtrise d'Aaron, c'est dans celle de Melchisédek. Et on va y venir. Tout le monde ne peut pas faire ça. J'ai déjà dit, mais je le redis encore pour que ça soit bien clair. Pour ce qui est des rois, ça a été pareil en Israël. David, c'était un bon roi. Bon, il a fait quelques boulettes. On ne va pas lui jeter la pierre. Moi, je peux peut-être lui jeter la pierre parce que je ne fais jamais de boulettes, c'est ça? Non, je fais des boulettes comme David. Enfin, pas aussi grave quand même. Enfin, tout le monde fait des boulettes. Et puis, bon, il a quand même été un bon roi. Mais par contre, ses descendants... Hein? Bonjour les dégâts. Alors vous voyez, aucun système basé sur l'hérédité humaine n'est valable dans le royaume de Dieu. Seule l'hérédité divine peut amener le royaume de Dieu. La prêtrise de Melchisédek Elle n'a connu aucun problème. Aucun problème. C'est aussi une prêtrise de nature héréditaire qui se passait de père en fils, puisque c'est le père qui a dit, voici, je te... et je ne me repens pas, tu es maintenant. Mais dans ce cas, le père c'est Dieu et le fils c'est Dieu aussi. Hein? Maintenant on va aller jusqu'au bout. Paul il dit que Jésus est le premier-né d'une grande fratrie. D'une grande fratrie de quoi? De prêtres-rois. De prêtres-rois. Paul écrit, Melchisédek, sans père ni mère, sans aucune généalogie, ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Hébreux 7, 3. Donc Melchisédek est le portrait de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est rendu semblable à Melchisédek, c'est le contraire. 1. Il n'hérite pas de la prêtrise de son père comme c'était le cas pour les Lévites. Il est lui-même le Père, Père éternel. D'accord? Mais dans la création, il a cette fonction-là. Il a cette fonction dans la création et il la manifeste depuis le tabernacle éternel qui est hors création. Mais il l'a reçu directement donc de Dieu, cette prêtrise. Deuxièmement, sa prêtrise, elle est éternelle. Elle existait déjà avant. Ce qui est éternel, ça a toujours existé. Ce n'est pas un truc nouveau. Ça a toujours existé. C'est éternel. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais là, c'est éternel. Troisièmement, il est roi de justice, il est roi de paix. Voilà ce que signifie Melchisédek. Même le mot hébreu signifie ça. Et ces qualités s'appliquent alors absolument parfaitement à Jésus. On trouve dans Hébreux 7, 17, quelque chose de magnifique. Ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire ordre de paix et de royauté. Maintenant, quand on lit Exode 29, on apprend comment Aaron et ses successeurs devenaient prêtres. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, mais vous le lirez, chapitre 29, verset 4, vous allez voir qu'ils devaient être lavés avec de l'eau. Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose qui durait longtemps? À mon avis, nous, on s'est promenés dans les déserts d'Israël, Michou et moi, avec la famille à l'amant. Eh ben, on a beau se laver, au bout d'un moment, on repue. Hein? Il faut se relaver encore. Bon. C'était juste un symbole terrestre d'une réalité spirituelle. Et Jésus, il a accompli cela, mais d'une façon parfaite. Il a dit, à moins que je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. Une fois lavé par Jésus, on est lavé. Jean 13, 18. Ensuite, après avoir été lavé, Aaron, donc toujours Exode 29, verset 18, après avoir été lavé, Aaron devait se revêtir de vêtements de prêtre. Exode 28, 2. Pour nous, Romains 13, 14 nous dit que de quels vêtements nous devons nous revêtir? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul vêtement qui peut nous rendre aptes à servir en tant que prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Ensuite, Aaron était oint. Exode 29, 7. Hein, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, vous connaissez l'histoire. Jean-Baptiste, il n'a pas oint Jésus. Le Saint-Esprit est venu, mais c'était en dehors de l'action de Jean-Baptiste. Lui, il l'a vu. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Tel a été le chemin de Jésus, le chef des prêtres. Et il en est de même pour tous ceux qui le suivent en tant que prêtre. Dans Jean 20, 21, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis, il dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Jean 20, 21. Il l'a envoyé comment? Comme prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Et ils ont été baptisés, c'est-à-dire immergés dans le Saint-Esprit. La prêtrise, elle est toujours victorieuse parce qu'elle a pour origine le Saint-Esprit. Elle n'est pas humainement transmissible. Pas du tout. Alors, marchons sur les traces de notre Maître, le Seigneur Jésus, comme Paul nous le dit. Il dit, « Je vous presse, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants et saints pour plaire à Dieu, ce qui est un acte spirituel d'adoration. » Et dans la version d'Alfred Kuhn, c'est ce qui est, aux yeux de Dieu, un culte raisonnable. En cela, alors que nous sommes sur la terre, nous sommes des prêtres selon l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire que nous offrons des sacrifices. Pas des sacrifices de veau, de vache et de cochon. Non, ils n'offraient pas les cochons. Nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants. Nous enseignons, nous baptisons, vous comprenez? Mais nous devons rester dans cette fonction-là, si nous sommes prêtres selon l'ordre d'Aaron. Et ça, il y en a une multitude. Tous ont cette prêtrise. Tous les gens nés de nouveau ont cette prêtrise. Mais cette prêtrise-là n'est que l'ombre de la prêtrise de Melchisédek. Quand nous exerçons la prêtrise d'Aaron, nous faisons tout ce qui est transmissible. On témoigne, on transmet un témoignage. On prêche, on transmet un enseignement. On administre le baptême. Ça, on peut le faire. On donne la Sainte Cène. On offre nos corps en sacrifice vivant. Tout ça, c'est transmissible. C'est nous qui le faisons. Et nous pouvons enseigner des gens pour qu'ils deviennent des transmetteurs de la parole, des baptiseurs, etc., etc., etc. Mais quand nous exerçons la prêtrise selon Melchisédek, nous ne transmettons rien d'humain. C'est Dieu qui transmet au travers de nous. C'est très différent. Nous sommes juste les agents par lesquels Dieu transmet le Saint-Esprit, par imposition des mains, la guérison, par imposition des mains, tout ce qui est naturel, comme surnaturel, par exemple, comme les ministères. Mais il faut que quelqu'un soit dans l'ordre de Melchisédek pour pouvoir, au nom de Jésus, c'est Jésus dans la personne qui a cette fonction, c'est Jésus dans la personne qui fait la chose. C'est pour ça qu'Hébreux 7, 24 dit que ce sacerdoce, c'est une prêtrise intransmissible. Elle ne se transmet pas par l'homme, elle se transmet par Dieu qui vit dans l'homme. Elle se transmet par Dieu qui vit dans l'homme, qui est mort à lui-même, qui a sacrifié sa vie, c'est-à-dire qui a véritablement bien exercé le ministère, la prêtrise d'Aaron, qui était fidèle en toutes choses dans son office, qui n'a pas cherché à dépasser cela. Mais Dieu, s'il le veut, lui confère cette autre prêtrise qui est supérieure. Ce n'est que si l'Esprit de Dieu vit en vous que vous pouvez manifester la prêtrise de Melchisédek, si Dieu le veut. Et alors, celui qui vous reçoit, me reçoit. Hein? C'est pas tout le monde. C'est pas. Les chrétiens disent, oh, il a perçu mon témoignage, il a perçu Jésus, il est perdu. C'est faux. Dieu a envoyé des hommes pour prêcher l'évangile. Et c'est cela, si vous rejetez un homme comme ça, c'est Jésus que vous rejetez. C'est les ministres, si vous rejetez les ministres. Pas si vous rejetez, excusez-moi. Mais il y a de l'ordre dans le royaume de Dieu. C'est pas la sœur ou le frère Tartampion à moitié, excusez-moi, pardonnez-moi, déséquilibré, qui va dire, Jésus vous aime, il faut que vous vous convertissiez, vous savez Jésus, il vous aime, hein, il faut vraiment vous donner. Puis l'autre dit, arrête, tu me fous la paix maintenant. Ah, tu m'as rejeté, t'as rejeté Jésus. Bon, c'est pas de ça dont Jésus parle. Hein. Vous comprenez bien. C'est seulement lorsque vous manifestez la prêtrise de Melchisédek que si quelqu'un vous rejette, il rejette Jésus. C'est seulement ceux qui ont cette prêtrise-là à qui il est dit, les péchés que vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Vous ne pouvez pas aller dans la rue dire, je te pardonne au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas faire comme l'autre qui était vers le frère, machin, puis lui dire, Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'office, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas la... ce n'est pas légal. Vous n'êtes pas un administrateur légal. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez prier pour qu'il soit pardonné, mais vous ne pouvez pas le pardonner au nom de Jésus. À moins que vous soyez comme Jésus, que vous ayez reçu par ordre divin cette prêtrise-là. Et les péchés que vous retiendrez leur seront retenus. Si une personne, ici, n'importe qui, dit « Ah ben je ne pardonne pas, comme ça il ne sera pas pardonné au ciel. » Donc ça ne va pas, ce cirque. Ça ne va pas. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont les ministres. Et venez pas me dire que je suis en train de créer un système nicolaïte. Ça, c'est le système de Dieu. Ça, c'est le système de la véritable Église. Ça, c'est le système de la Bible. Tout ce qui est en dehors de ça est faux. De même, pour ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Vous imaginez un petit peu le fourbi avec tous ceux qui lient et qui délient n'importe comment, à tort, à travers, avec des esprits complètement dingos. Pardonne-moi, Seigneur, et que chacun de vous qui m'écoutez me pardonniez. Mais dans l'Église, considérez, comme dit l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas beaucoup de gens sages et intelligents. Donc si tous les chrétiens se mettent à lier, à délier, à tort et à travers, mais ça va faire des sacs de nœuds dans le ciel, quelque chose de terrible. Et quand Jésus dit « Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi », ce n'est pas pour tout le monde. Vous voulez une preuve ? Ben regardez ce que les chrétiens font. Oui ou non ? Du temps des apôtres, Jésus avait dit « Tous ceux qui croient imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Ouais. N'empêche, quand l'Église était organisée, la Bible nous dit qu'il se faisait de grands miracles par les mains des et que les autres se tenaient à l'écart parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. N'est-ce pas écrit ? Ici, si un serviteur de Dieu fait des miracles, on dit que c'est par le démon. Il était possédé. Quand il est dit « tel je suis, tel vous êtes aussi » dans 1 Jean 4, 17, si vous avez cette prêtrise-là, et puis cette prêtrise-là, elle se démontre. Tout ça, ça n'est vrai que pour ceux qui détiennent la prêtrise intransmissible de Melchisédek. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si on a reçu la prêtrise de Melchisédek ? Eh bien, c'est transmissible. C'est une prêtrise qui n'est pas transmissible, mais c'est Dieu qui la donne. Rappelez-vous de cette histoire. Michou et moi, on descend à une réunion et on s'assied dans un restaurant pour prendre notre petit déjeuner. J'entends une voix qui me dit « Est-ce qu'il y a la place est libre ici ?» Je lève les yeux, c'était Osborne. Il ne m'avait jamais adressé la parole. On était touchés, bouleversés. Dans un restaurant, oh, bien sûr, la place est libre, asseyez-vous. Donc, sa femme arrive, on prend notre petit déjeuner et Osborne nous dit « Voilà, j'étais dans ma chapelle de prière avec mon épouse et nous pleurions parce que nous venons de perdre notre fils la semaine passée. Et nous avions une invitation pour venir prêcher en France, mais nous n'avions pas le cœur vraiment de venir pour prêcher alors que nous venions de perdre notre fils. Mais, frère, je crois que Dieu me dit que c'est vous, parce que le Saint-Esprit m'a dit, alors que nous étions en train de prier, « Allez en France et je vous donnerai un fils. » Et il dit, « Je crois que c'est vous. » Ça, c'est par esprit de prophétie. Frère Osborne avait-il la prêtrise de Melchisédek, à votre avis ? Si lui ne l'avait pas, je ne vois vraiment pas qui c'est qui peut l'avoir. Voilà, Dieu lui a dit, il y a eu prophétie, il y a eu imposition des mains, il y a eu ordination, il y a eu de l'ordre. Ça doit se faire dans l'ordre, dans l'ordre. Cette ordination a eu lieu le 7 novembre 1979, non transmise par un homme, mais par Dieu. Alors maintenant, souvenez-vous, chacun doit tenir sa place, celle que Dieu lui a donnée. Souvenez-vous, par exemple, que Philippe, pas Philippe Navez, l'autre, celui de la Bible, que Philippe, qui avait été prêché en Samarie, il a prêché avec un succès fou. Il y a eu des conversions, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances, il y a eu des baptêmes d'eau. Vous trouvez tout ça dans Actes 8, 1 à 12. Qu'est-ce qu'il a exercé là? La prêtrise d'Aaron. Tout ce qui est transmissible. Mais pour que l'Esprit Saint, le vrai Saint-Esprit, pas le truc émotionnel de tabadabada, shabadabada, le vrai Saint-Esprit vienne, Philippe a fait appel à ceux qui avaient la prêtrise de Melchisédek, c'est-à-dire Pierre et Jean. Acte 8, 14. Ah! Parce qu'en vérité, cela ne leur a pas été transmis par un homme, mais par Dieu. Par Dieu qui vivait en eux. Et par imposition, il leur donnait. Et l'autre, le malade mental, le magicien, il a dit, ah, quand il a vu que le Saint-Esprit était donné comme ça, par imposition des mains, il a dit, je vous donne de l'argent même s'il faut, parce que j'aimerais bien avoir ce don, tellement que c'était extraordinaire, il l'a voulu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu fait les choses, Dieu fait les œuvres au travers d'eux, et il parle au travers d'eux. Melchisédek était rendu semblable au Fils de Dieu, Hébreux 7, 3, et non le contraire. Eh bien, c'est aussi ce qui arrive à ceux qui s'abandonnent à la royauté et à la prêtrise de Jésus. Ils deviennent semblables à leur maître. Mais il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. Même renoncer à tout. Là, au mois de décembre, voyant la rébellion, je dis, je renonce, je me retire. Voilà ce que c'est l'esprit de la prêtrise de Melchisédek. Celui qui dit, ça ne m'appartient pas, c'est à Dieu. Alors si vous en voulez, prenez-le, moi je m'en vais. Et ces choses doivent être faites en accord avec Dieu et l'Église. La vraie Église. Pas dans le désordre. Pas dans une division. Les miracles peuvent se produire, des délivrances aussi peuvent se produire, il peut y avoir des baptêmes d'eau, c'est magnifique, mais ce ne sont que des actes de foi, transmissibles. Prêtrise d'Aaron. Mais des actes de foi accomplis en dehors de ce qui est juste. Ce sont des actes de foi qui sont accomplis en dehors de ce qui est juste, parce que ça n'est pas en accord avec l'autorité établie dans l'Église. Michel, mais quelle prétention tu as? Non, simplement, je dis les choses afin de ne pas être tenu pour coupable lorsque nous comparaîtrons devant Dieu. Je ne veux pas entendre Dieu me dire « tu ne l'auras pas dit ». Jésus leur dira « oui, vous avez fait des miracles, oui, vous avez délivré quelques personnes, mais arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous commettez l'iniquité, c'est-à-dire ce qui n'est pas juste. Iniquité, ce n'est pas péché. C'est bien sûr que c'est péché, mais c'est plus précisément ce qui n'est pas juste. Alors, mes frères et sœurs, petit troupeau, il faut que tu veilles, il faut que tu pries, parce que l'heure vient où la moisson va avoir lieu. Alors, sois bien certain d'être dans l'ordre établi. Avec la bonne huile et pas une huile frelatée, pas une huile qui a été secouée et qui a été souillée par un esprit de division. Mets-toi du bon côté, du côté du Seigneur Jésus-Christ, et sois bien sûr, bien certain. Je recevais une lettre de l'épouse d'un entre guillemets prophète qui me disait « Je ne crois même pas tout ce que me dit mon mari ». C'est épouvantable. Épouvantable. Vous voyez, quand c'est le Saint-Esprit, il y a confirmation de Dieu dans les cœurs. Il doit y avoir confirmation de Dieu dans vos cœurs. S'il n'y a pas cette confirmation, fuyez-moi. Fuyez-moi. Je vous ai toujours dit ça. Amen. Merci Seigneur Jésus de bénir ces choses. Merci de mettre de l'ordre dans ton Église et permets que nous puissions établir les choses d'une façon claire, bien nette, qui te plaise, que tu puisses agréer et que ton nom soit glorifié. Permets aussi que ceux qui sont dans les Églises et qui écoutent ce message se mettent à réfléchir, à prier, à jeûner pour savoir, mais où est-ce que j'en suis? Mais qu'est-ce qui se passe dans mon Église? Pourquoi ça va comme ça? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et qu'ils puissent parler avec les uns, avec les autres, avec leurs responsables, avec leurs pasteurs, se mettre devant toi et entrer dans ce rétablissement de toutes choses selon l'ordre de Dieu. Merci Jésus, permettre que ce petit message puisse aider quelques-uns. Merci Jésus. Amen. Amen.